Vous écoutez On lit pour vous.
Ces milliardaires en quête d'immortalité. Un texte de Marine Cornu, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science. L'obsession de la vie éternelle n'a jamais été aussi intense ni aussi bien financée. Des milliardaires de la Silicon Valley croient fermement pouvoir inverser le temps. Et la science leur donne presque raison. Hérodote en parlait déjà au 5e siècle avant notre ère. Les peintres du Moyen Âge l'ont maintes fois imaginé. Les conquistadors l'ont cherché au Nouveau Monde. Et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, y croit encore. La fontaine de Jouvence, cette source miraculeuse qui promet la vie ou la jeunesse éternelle, est un fantasme universel qui n'a pas pris une ride. Aujourd'hui, c'est dans les laboratoires que la quête se poursuit. Les investissements dans la recherche pour contrer, voire inverser le vieillissement, atteignent des sommets. Ils sont principalement le fait de milliardaires de la Silicon Valley comme Jeff Bezos ou Peter Thiel, fondateur de PayPal, obsédés par l'espoir de déjouer la mort. Ainsi, en 2022, plus de 5,2 milliards de dollars américains ont été injectés dans 130 jeunes pousses œuvrant pour la longévité, 10 fois plus qu'il y a une décennie. On ne cherche plus à prolonger la vie, on tente carrément d'inverser l'horloge biologique. Et ces efforts massifs portent leurs fruits. Les essais cliniques se multiplient, tout comme les annonces spectaculaires. Quelques exemples. En juillet 2024, une équipe de Singapour a prolongé la vie d'une souris de 25% en éteignant la production d'une seule molécule, l'IL-11. En 2023, une équipe de l'Université Harvard a découvert un cocktail de 6 molécules capable, en moins d'une semaine et sans altérer l'ADN, de restaurer la vigueur moléculaire de cellules cultivées en laboratoire. Un vrai retour dans le temps. L'étude, publiée dans la revue Aging, a fait grand bruit, rendant le rêve de réjuvénation potentiellement accessible grâce à une simple pilule. L'auteur principal de ces travaux, le généticien David Sinclair, n'a d'ailleurs pas perdu de temps. Il a commercialisé cette année la première pilule soi-disant capable de faire rajeunir des chiens, ce qui a suscité la colère de nombreux scientifiques, car la formule de la pilule est secrète, qu'aucun essai n'a été publié et que l'effet vanté est en fait minuscule. Le temps étant implacable, l'impatience va de pair avec la quête de l'immortalité. Des personnes en vue sur les réseaux sociaux encouragent l'auto-administration de rapamycine, un immunosuppresseur prescrit à la suite d'une greffe, depuis qu'une étude a démontré que ce traitement augmentait la durée de vie des souris de 15 à 20. Et tant pis pour les risques d'infection et d'autres effets secondaires métaboliques. D'autres se font transfuser du sang de personnes plus jeunes, inspirées par un corpus d'études ayant montré chez les rongeurs que le sang juvénile aidait à lutter contre les signes de l'âge. Le milliardaire américain Brian Johnson a ainsi orchestré récemment un don de sang entre son fils de 17 ans et son père de 70 ans. Bilan à date, aucun changement notable. Les conjectures sur l'âge maximum auquel les humains peuvent aspirer vont, elles aussi, bon train. Dans la revue Génome Biology, le futuriste João Pedro de Magalhães, professeur de biogérontologie à l'Université de Birmingham, expliquait récemment que le vieillissement ne serait pas lié à l'endommagement du hardware, c'est-à-dire du matériel biologique, mais qu'il résulterait plutôt d'un problème de logiciel. Autrement dit, il serait programmé dans l'ADN. Si on reprogramme les cellules adéquatement, croit-il, on pourrait vivre en théorie jusqu'à 1000 ans. Inutile de dire que cette thèse fait lever les sourcils de la plupart des spécialistes qui considèrent que notre espèce peinera, en fait, à dépasser le seuil de 120 ans. Pour ma part, je ne suis pas sûr d'être tenté par l'expérience multiséculaire et je n'en aurai de toute façon jamais l'occasion. Si de tels élixirs de longue vie finissent par voir le jour, ils seront réservés aux milliardaires et autres magnats de la tech, persuadés que leur présence prolongée sur la planète serait une bénédiction pour le reste de l'humanité. Voilà qui ne fera qu'accroître des inégalités déjà criantes en matière d'espérance de vie et surtout de qualité de vie. Car pour le commun des mortels, le fait de vivre plus longtemps s'accompagne souvent d'un nombre croissant d'années en mauvaise santé. En bref, de plus en plus de personnes vivent avec des maladies invalidantes, en particulier les moins bien nantis. Aux États-Unis, la différence d'espérance de vie entre les populations noires et blanches est en moyenne de 5 ans. Je vous laisse deviner qui gagne. À Boston, des données récentes ont montré que l'écart d'espérance de vie peut atteindre 15 ou 20 ans selon qu'on vit dans un quartier riche ou défavorisé, et ce, à quelques pâtés de maisons de distance. À Montréal, une étude a aussi révélé que les personnes habitant certains quartiers de l'Est pouvaient s'attendre à vivre jusqu'à 9 ans de moins que les gens de l'Ouest de l'île. Et c'est sans parler du risque de solitude, qui augmente à mesure que la vie s'allonge. Selon un rapport récent, 41% des Canadiennes et Canadiens de plus de 50 ans sont à risque d'isolement. À ce compte-là, la vieillesse peut sembler interminable. Voilà qui remet les choses en perspective. Pendant que les richissimes technophiles espèrent s'offrir l'éternité, œuvrons à notre échelle pour des sociétés plus solidaires et plus justes, histoire que l'âge d'or soit étincelant pour plus de monde. C'était « Ces milliardaires en quête d'immortalité », un texte de Marine Cornu, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science.
Des sons pour combattre le bruit urbain, un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er décembre 2024 dans La Presse. Introduire en ville des sons de nature, de mer ou électronique pour réduire les agressions sonores urbaines. Telle est l'expérience qu'un groupe de chercheurs a tentée en plein cœur du plateau Mont-Royal, à Montréal. Les résultats sont prometteurs. Les fleurs de macadam. Il y a 10 ans, une station-service Esso, en plein cœur du plateau, sur l'avenue du Mont-Royal, fermait ses portes. En 2019, le site, où le père de Jean-Pierre Ferland avait exploité un garage durant l'après-guerre, est devenu la place des fleurs de macadam, un parc urbain. Des chercheurs de l'Université McGill ont profité de l'aménagement de l'espace exigu situé en plein milieu de Montréal pour tester une nouvelle approche, masquer les bruits urbains stressants par d'autres bruits plus paisibles. Nous voulions voir comment différents types de bruits affectent la perception du bruit urbain normal, explique Valérian Fraisse, étudiant au doctorat en technologie musicale à l'Université McGill, qui est l'auteur principal de l'étude, publiée en novembre dans la revue Landscape and Urban Planning. Il s'agissait d'un projet de recherche du groupe Ville Sonore, qui rassemble des chercheurs de McGill et des firmes et des ONG montréalaises. 4 environnements sonores ont été testés au fil de 2 étés, des bruits de nature, de mer, des voix et des sons doux de synthétiseurs. Nature. Fait à noter, durant cette même période, la ville essayait différentes manières d'aménager la place des fleurs de macadam. Cela enrichissait mais compliquait les analyses. La coopérative Audiotopie a mis au point les environnements sonores. C'était notre premier projet dans un lieu public, indique Étienne Legast, d'Audiotopie, qui a composé les quatre pistes avec ses collègues Lou Duchemin-Lenquette et Simone D'Ambrosio. Fondée en 2009, Audiotopie fait habituellement des parcours sonores pour des visites urbaines ou dans les galeries. Circulation et construction. Les quatre types de sons ont tous atténué l'impression de bruit urbain chez les gens qui fréquentaient la place des Fleurs de Macadam. Mais curieusement, les sons de synthétiseur étaient les plus efficaces. Selon Valérian Fraisse, doctorant en technologie musicale à l'Université McGill, l'hypothèse, c'est qu'avec des bruits plus abstraits, on ne peut pas identifier la source. Ça aurait un effet plus marqué sur le cerveau. De manière générale, le désagrément sonore des climatiseurs environnants et des voitures en circulation était diminué. Durant la deuxième année de l'expérience, un chantier de construction de voirie battait son plein à proximité avec des marteaux-piqueurs. Encore une fois, les bruits concoctés étaient parvenus à atténuer ceux de la construction. Les fontaines des parcs d'antan. Traditionnellement, des fontaines ont assuré ce masquage des bruits dérangeants par d'autres bruits, raconte M. Fraisse. Est-ce que les fontaines des parcs, d'il y a 100 ans, avaient cet objectif? On ne sait pas si c'était l'intention des concepteurs des parcs, mais c'est une possibilité, répond M. Fraisse. L'étude du masquage du bruit par d'autres bruits est un domaine de recherche en ébullition, selon Richard Neitzel de l'Université du Michigan, qui dirige depuis 2019 une vaste étude sur le bruit ambiant impliquant des oreillettes d'Apple. L'Apple Hearing Study regroupe plus de 160 000 Américains. Le bruit est de plus en plus considéré comme un problème important de santé publique, dit-il. On réalise qu'il ne cause pas seulement des problèmes d'ouïe, mais aussi des problèmes cardiovasculaires. Alors on regarde comment on pourrait atténuer le stress sonore des villes. Le masquage est une stratégie déjà utilisée, alors on veut voir si elle fonctionne réellement. Additionner des bruits. L'un des problèmes potentiels du masquage est qu'il pourrait augmenter l'exposition au bruit, selon M. Neitzel. Un seul criquet ne crée pas beaucoup de bruit. Mais si vous allez dans un champ rempli de criquets, c'est assourdissant. Les bruits s'additionnent. C'en est un bon exemple. Le masquage peut réduire le stress sonore, mais il cause plus de problèmes de santé. C'est un peu le même problème qu'avec le bruit blanc. Des recherches montrent que, dans certains cas, le niveau de décibels des appareils à bruit blanc, vendus pour favoriser le sommeil, est très élevé. L'exemple britannique. L'un des exemples de masquage sonore urbain les plus étudiés est sans contredit le centre-ville de Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Il y a 15 ans, une série de fontaines avoisinant la gare centrale où passent des trains et des autoroutes ont été installées. Ces fontaines réduisaient le niveau de stress des passants dans cette place très fréquentée, ont démontré des études. Sensibilité variable. Les différences de sensibilité entre individus viennent compliquer l'étude des désagréments du bruit urbain. On sait que certaines personnes sont plus affectées que d'autres par certains bruits, note M. Neitzel. Mais on ne sait pas pourquoi il y a autant de différences individuelles. Et on ne sait pas non plus si les gens que le bruit urbain dérange moins ont moins de conséquences sur leur santé, s'ils sont moins stressés ou s'ils ignorent simplement qu'ils sont stressés. Les rares études épidémiologiques sur cette question sont réalisées depuis une douzaine d'années près des aéroports de Lyon, de Toulouse et Charles de Gaulle, en France. Les gens que le bruit gêne le plus sont aussi ceux sur lesquels ce bruit a le plus d'impact négatif côté santé, explique Anne-Sophie Évrard de l'Institut français des sciences et technologies. Madame Évrard fait une différence entre la gêne, inconfort, causé par le bruit et la sensibilité au bruit, qui ferait partie d'une sensibilité générale aux désagréments environnementaux comme la lumière ou les odeurs. En 2018, dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health, l'équipe de Madame Évrard a montré que les gens qui sont le plus gênés par le bruit éprouvent 4 fois plus de détresse psychologique et ceux qui sont le plus sensibles au bruit en éprouvent 2 fois plus. En 2022, dans Occupational and Environmental Medicine, elle a montré que la gêne et la sensibilité augmentent le risque d'hypertension liée au bruit. Le manque de standardisation des questionnaires concernant le bruit ajoute un obstacle à l'étude des variations de sensibilité au bruit entre individus. Il est certain qu'il y a des variations. Mais comme les questionnaires sont différents, on ne peut pas vraiment arriver à des conclusions scientifiques, explique Truls Gjesland, chercheur à l'Institut norvégien de technologie, SINTEF, qui a publié une étude sur le sujet en 2023 dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health. En savoir plus, source Union européenne, 15%. Proportion des Européens qui étaient exposés à des bruits routiers dépassant 55 décibels en 2007. 21%. Proportion des Européens qui étaient exposés à des bruits routiers dépassant 55 décibels en 2017. C'était « Des sons pour combattre le bruit urbain », un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er décembre 2024 dans la presse.
Quand la fin devient un nouveau départ pour l'éolien. Un texte d'Éric Bosco et Annie Levasseur paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. Le projet éolien des neiges, annoncé par Boralex, Hydro-Québec et Énergir, est ambitieux et porteur de nombreuses promesses. Il s'inscrit dans une démarche nécessaire de transition énergétique. Il est essentiel de saluer cette initiative qui contribuera à réduire notre empreinte environnementale. Cependant, il est impératif de souligner un enjeu qui pourrait freiner le déploiement massif de l'énergie éolienne, la gestion des pales en fin de vie. Ces géants de l'énergie renouvelable posent aujourd'hui un défi environnemental considérable. Le manque de solutions de recyclage efficaces constitue un frein majeur, voire un paradoxe dans notre quête d'un avenir plus vert. De plus, afin d'assurer leur bon fonctionnement et d'éviter de réduire leur durée de vie, les éoliennes devront résister aux événements météorologiques extrêmes dont la fréquence et l'intensité iront en augmentant à l'avenir. Il ne faut pas se contenter de construire des éoliennes, mais il faut aussi penser l'ensemble du cycle de vie de ces infrastructures. Nous devons absolument intégrer, dès la conception de ces projets, des stratégies d'économie circulaire et d'adaptation au changement climatique. Contribuer à une transition énergétique plus juste. Mais la valorisation des pales d'éoliennes ne se limite pas qu'à des considérations environnementales et économiques. C'est également une question d'acceptabilité sociale. En démontrant que nous sommes capables de gérer de manière responsable le cycle de vie complet des éoliennes,
nous renforçons la confiance des citoyens envers les énergies renouvelables et facilitons le déploiement de nouveaux projets. Les initiatives de recherche et les projets industriels qui visent à valoriser les pales d'éoliennes contribuent ainsi à une transition énergétique plus juste et plus équitable. C'est là que réside l'occasion, en faisant de ce projet un modèle, en associant dès le départ les chercheurs, les scientifiques et les acteurs de l'économie circulaire, nous pourrons développer des solutions innovantes et pérennes pour gérer les pales en fin de vie. En valorisant un déchet industriel pour en faire une nouvelle matière première, nous créerons de nouveaux emplois, diversifierons notre économie et renforcerons notre position de leader en matière d'innovation. En agissant ainsi, nous ne ferons pas seulement progresser la filière éolienne, nous enverrons également un signal fort à l'ensemble de la communauté scientifique et industrielle. L'heure est à l'innovation, à la recherche de solutions durables pour les défis environnementaux d'aujourd'hui. Il faut donc saisir cette occasion unique de faire de ce projet éolien un véritable laboratoire d'innovation, un modèle de développement responsable qui inspirera bien d'autres initiatives. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un écosystème de l'innovation où les idées les plus audacieuses trouvent un terrain fertile pour se développer. Le projet éolien présenté aujourd'hui peut être le catalyseur de cette dynamique, en démontrant qu'il est possible de concilier développement économique, innovation et protection de l'environnement. C'était « Quand la fin devient un nouveau départ pour l'éolien », un texte d'Éric Bosco et Annie Levasseur paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.
Des bactéries pour dépolluer des mines abandonnées? Un texte de William Thériault paru le 18 novembre 2024 dans La Presse. Il y a de la vie dans les mines abandonnées du Québec et elles pourraient être bénéfiques à l'environnement. C'est ce qu'observent deux chercheuses de l'ICAM qui étudient des communautés microbiennes se nourrissant de substances toxiques dans les aquifères, formations géologiques contenant des nappes d'eau douce souterraines. En septembre 2024, l'hydrochimiste Violaine Poncin et la microbiologiste Cassandre Lazare ont reçu près de 760 000 $ de la Fondation canadienne de l'innovation, du gouvernement du Québec et d'autres partenaires pour leur projet. Les deux chercheuses et leurs trois étudiants diplômés espèrent comprendre les processus responsables des transformations biotiques et abiotiques des contaminants dans les aquifères. L'argent reçu permet de payer les étudiants au doctorat et à la maîtrise qui travaillent parfois jusqu'aux petites heures du matin ou la fin de semaine, mais aussi à faire du séquençage en laboratoire, à maintenir l'équipement et à payer des déplacements et des analyses. Grâce à une équipe de plongeurs, les chercheuses ont d'abord recueilli des échantillons de vie dans l'ancienne mine Foresight et travaillent désormais dans l'ancienne mine de Mica Blackburn, toutes deux situées en Outaouais. Lorsque les mines sont abandonnées, ils arrêtent de pomper l'eau souterraine, donc elle remonte à la surface, explique Cassandre Lazare, professeur agrégé au département des sciences biologiques de l'UQAM. Très rapidement, il n'y a plus d'oxygène. Dans les premiers mètres de profondeur, ça disparaît complètement, note à son tour Violaine Poncin, professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM, qui mène des analyses isotopiques de composés spécifiques, CSIA, dans ce projet. Puis, en descendant, les quantités de méthane augmentent de façon draconienne. Toute la chaîne alimentaire de l'aquifère est basée sur cette présence, puisque les micro-organismes s'en nourrissent. L'autre grand intérêt des recherches, savoir si la profondeur influence la composition des communautés microbiennes. Jusqu'à maintenant, la réponse est oui. Elles sont moins nombreuses avec la profondeur. Applications externes. On a découvert de nouvelles espèces de bactéries qui, à l'heure actuelle, sont inconnues dans les bases de données. Elles vivent dans un habitat tellement unique que ça permet l'évolution d'espèces capables de transformer les formes d'éléments traces métalliques en métaux moins toxiques. Illustre Madame Lazare. Le micro-organisme ne fait pas ça pour aider les humains, poursuit-elle. Ce qui l'intéresse, c'est la source d'énergie, de carbone. Mais en transformant la substance à son avantage, il engendre une conséquence positive pour nous. Dans le cratère de la mine, on retrouve aussi des daphnies, un zooplancton visible à l'œil nu, mesurant de 1 à 4 mm, qui bio-accumule tout ce qui est toxique dans ses tissus. Normalement transparentes, les daphnies du site Blackburn sont rouges en raison d'un grand stress, mais elles résistent à des concentrations toxiques extrêmement élevées. Même si ce n'était pas l'objectif principal, les chercheuses y voient un processus qui peut être externalisé et appliqué. La méthode, appelée bioremédiation, est utilisée pour nettoyer des marées noires en mangeant les hydrocarbures dans l'eau. La dégradation par micro-organismes peut aussi être utile comme mesure de gestion de la pollution, notamment sous les réservoirs des stations-service, ajoute Mme Poncin. Des souches de bactéries sont actuellement isolées au froid en laboratoire. Elles seront prochainement étudiées en culture à différents taux de métaux lourds. Dans un monde idéal, avec le bon financement, je dirais qu'en 6 mois, on pourrait caractériser toutes les souches et proposer un cocktail pour dépolluer des milieux qui auraient les mêmes conditions, estime Cassandre Lazare. C'était des bactéries pour dépolluer des mines abandonnées. Un texte de William Thériault, paru le 18 novembre 2024 dans La Presse.